Sophie N, bonjour.
Bonjour.
Souveraineté européenne, réalisme et réformisme radical est un essai qui devrait passionner tous ceux qui se soucient de l'avenir de l'Union européenne. Alors, il faut le dire, on vous fait souvent la remarque que vos critiques concernant le fonctionnement de l'Union européenne rejoignent celles des eurosceptiques ou des anti-européens, puisque vous faites le constat que la construction de l'Europe s'est accompagnée dans certains domaines d'une perte de souveraineté pour les gouvernements des États membres. Mais la comparaison s'arrête là. Vous appelez de vos voeux l'avènement d'une Europe fédéraliste, démocratique et souveraine. Avant d'exposer votre projet, dites-nous quels sont, tels que vous les analysez, les contour de la crise de souveraineté au sein de l'Union européenne.
Vous avez bien cerné le cœur de mon argument. Donc, en effet, si je partage une partie du diagnostic des eurosceptiques ou des anti-européens sur la perte de souveraineté au niveau national, je ne partage pas du tout leurs recommandations. Et en effet, je m'inscris dans une optique pro-souveraineté, mais au niveau européen. Donc, il y a plusieurs dimensions dans mon argument. Il y a d'abord une dimension donc critique, comme vous l'avez souligné, de la construction européenne, qui revient à mettre en évidence le fait que l'européanisation très avancée, mais malgré tout partielle, de certaines politiques clés, y compris de certaines politiques même régaliennes, a contribué à réduire l'efficacité de la souveraineté nationale, voire à la vider de sa substance. Et donc, finalement, brider les gouvernements nationaux quand ils essaient d'agir dans des domaines clés, la politique macroéconomique, la politique de sécurité, d'immigration, etc. Et parallèlement, cette perte de souveraineté au niveau national n'a pas été compensée par la construction d'une souveraineté proprement européenne. Donc c'est là que mon argument se distingue très fortement de celui des eurosceptiques et des anti-européens, c'est que je préconise ce saut qualitatif fondamental vers l'établissement d'un gouvernement européen souverain, en tout cas dans certains domaines clés.
Alors justement, ce livre complète, prolonge un précédent ouvrage pour lequel nous vous avions reçu, For a Sovereign Europe. Quelle serait l'architecture de cette Europe souveraine que vous appelez de vos voeux ?
C'est difficile de résumer en quelques mots. J'encourage vraiment les auditeurs à lire l'ouvrage, le premier, For a Sovereign Europe, et idéalement le second qui est en français, qui est un peu plus complet, qui fait davantage le lien avec mes autres écrits. Mais en quelques mots, une dimension fondamentale du projet que je défends consiste à aller vers une architecture proprement supranationale et donc à long terme à se débarrasser des éléments intergouvernementaux de la construction européenne. C'est là que mon projet est assez radical, même s'il est réaliste dans la stratégie de changement que j'adopte, il est radical sur le fond, puisque le projet final, comme je disais, est de mettre fin à la dimension intergouvernementale de l'Union européenne. Donc ça passe évidemment par un changement institutionnel, évidemment, puisque donc il faudrait construire une démocratie représentative européenne, c'est-à-dire mettre fin à l'architecture institutionnelle hybride qu'on a aujourd'hui entre l'intergouvernemental et le supranational, avec des institutions qui sont à cheval sur l'intergouvernemental et le supranational. Donc, en termes très concrets, cela voudrait dire mettre fin au pouvoir des États. Alors, il faut préciser immédiatement que dans une optique fédéraliste, il peut y avoir évidemment un partage de compétences très important entre le gouvernement central, en l'occurrence ce serait le gouvernement européen, et les États fédérés. Ici, ce serait donc les anciens États nationaux, mais ce ne serait pas un partage de souveraineté, ce serait un partage de compétences. Et pour cela, il faut s'inspirer d'États fédéraux historiques tels que les États-Unis, le Canada, etc., évidemment en créant une version distincte au niveau européen. Mais c'est vraiment important de souligner que ce qu'on a pendant très longtemps appelé le fédéralisme européen est une sorte de dévoiement de la pensée fédéraliste, en fait. Parce que l'idée que l'on puisse partager ou diviser la souveraineté entre différents niveaux n'est pas une notion évidente en soi, dans la théorie politique, dans la pratique politique, mais ce n'est pas non plus une notion qui est au cœur du fédéralisme. Donc, ce qui est fondamental, c'est le partage des compétences, mais pas le partage de la souveraineté, du pouvoir souverain.
Et bon, ce que vous dites, en fait, c'est que la souveraineté partagée, qui est un argument avancé par certains juristes pour dire que les États ont gardé leur souveraineté même au sein d'une Union européenne qui s'est de plus en plus étoffée au niveau des domaines d'intervention, est une sorte d'artifice et que ça ne reflète pas la réalité.
Exactement.
Mais dans votre architecture, vous parliez de la mise en place d'un gouvernement européen, également avec un Parlement qui puisse proposer des lois, puisque actuellement c'est la Commission européenne qui le fait. Si on met fin aux institutions gouvernementale ou intertactique, c'est donc aussi la suppression du Conseil européen.
Voilà, et c'est là que le projet est assez radical, évidemment, parce que les États tiennent à leur pouvoir dans le cadre de l'Union européenne. Donc il faudrait mettre fin aux institutions que sont le Conseil européen et le Conseil des ministres, à travers lesquelles les gouvernements ont quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et il faudrait donc avoir un gouvernement européen souverain qui serait responsable devant un Parlement, qui serait un véritable Parlement, donc un pouvoir législatif capable de contrôler l'exécutif, mais aussi capable de proposer en effet des lois, ce que le Parlement européen ne peut pas faire aujourd'hui, malgré les pouvoirs importants qu'a accumulé le Parlement européen depuis sa création. Malheureusement, ce Parlement n'est pas un véritable Parlement européen. Donc je crois à la démocratie représentative. Je pense qu'on a besoin d'une véritable démocratie représentative au niveau européen, éventuellement avec des éléments de démocratie directe pour renforcer le lien entre les représentants et leurs électeurs. Et donc, ce qui est fondamental, en effet, c'est d'arriver à mettre fin au pouvoir des États, et ça ne peut pas se faire en un jour. En tout cas, au pouvoir des États dans la machine décisionnelle et institutionnelle, ce qui ne veut pas dire que des États fédérés n'auraient pas des compétences importantes, comme on regarde les États-Unis, il y a un pouvoir central, et puis il y a des États fédérés.
Et alors, justement, vous dites bien que c'est une réforme sur le long terme, une réforme très importante. Vous vous interrogez dans l'un de ces chapitres, qui peut engager cette réforme? Finalement, on en déduit que les partis politiques sont au groupe attachés au cadre national. Les syndicats n'ont peut-être pas nécessairement cette vision européenne. Les think tanks sont, vous le dites, pour la plupart trop favorables au statu quo. Finalement, votre espoir à vous de cette réforme repose plutôt sur des mouvements citoyens?
Des mouvements citoyens, des mouvements de la société civile, en effet, en dehors des courants politiques établis qui sont encore et toujours très fortement ancrés dans des structures nationales, puisque c'est le cadre de leur émergence et c'est le cadre dans lequel ils ont prospéré. Je dis bien dans ce chapitre que tous ces acteurs peuvent être utiles, évidemment. Mais je pense que vraiment l'impulsion doit venir d'organisations de la société civile qui existent en dehors d'acteurs politiques trop liés aux structures nationales. Ce n'est pas le cas de tous les mouvements, mais ça peut être le cas de nombreux mouvements transnationaux, les mouvements fédéralistes, même si certains sont encore aussi également ancrés dans les structures nationales, mais il y en a qui essaient de dépasser tout cela, mais aussi d'autres mouvements qui agissent sur des causes particulières, des causes environnementales ou autres, mais qui peuvent avoir intérêt à faire pression, que ce soit via du lobby ou via de l'action plus de terrain, pour la construction donc d'une Europe fédérale démocratique, parce que cela peut leur permettre de défendre, de faire avancer leur cause et leur projet. Donc il faut, dans l'approche que je défends, la dimension intérêt est vraiment fondamentale, et je pense en effet que les mouvements de la société civile ont davantage intérêt à construire ce type d'institution. Alors bien entendu, le Parlement européen et la Commission peuvent pousser également une avancée vers ce projet qui est quand même très, très supranational, et donc dans l'intérêt de ces institutions-là.
Vous insistez beaucoup dans votre livre, et il est dans votre titre, Réalisme, pourquoi ?
Oui, donc là, ça fait référence aussi à d'autres ouvrages que j'ai publiés. Donc, par réalisme, je m'oppose vraiment clairement à l'idéalisme. Et ici, je fais référence à l'idéalisme au sens vraiment philosophique du terme. Donc, ce postulat selon lequel les facteurs idéals, les idées au sens large, peuvent changer la société, peuvent nous permettre d'avancer vers le progrès. C'est un postulat qui est très fréquent parmi les progressistes en général. Et c'est un postulat qui est très fréquent chez les pro-européens. Je m'oppose à ce postulat et je défends une autre approche qui s'inscrit beaucoup plus dans le réel, dans la réalité, qui se définit par une opposition, par un antagonisme entre intérêts collectifs. Et donc, ce qui fait avancer l'histoire, c'est l'issue de cette contradiction entre différents intérêts collectifs. Donc, je pense que quand on défend un projet particulier, il est indispensable de lier ce projet aux intérêts des acteurs qu'on essaie de convaincre. Donc, c'est pour
voir
ça que
à leur
dans
égoïsme,
ce livre,
je fais, si je vous ai bien lu.
Voilà. En effet, je pense que les individus, pour être mobilisés au niveau collectif, doivent entendre un discours qui parle directement à leur égoïsme. Parce que, voilà, il y a moult recherches sur le sujet, les individus sont mus par des facteurs égoïstes quand ils agissent au niveau collectif. Et donc, c'est fondamental que les mouvements sociopolitiques se rendent compte de cette importance de construire un discours qui parle directement à l'intérêt de chacun. Moi, j'ai évidemment mon opinion sur le sujet et je résume le projet de long terme qui, je pense, devrait être associé à cette idée de fédéralisme européen, qui est un projet axé autour de la notion de liberté individuelle. Parce qu'il me semble qu'un projet alternatif faisant entrevoir donc une société de liberté est quelque chose qui peut mobiliser. Je pense en effet qu'il est difficile de mobiliser uniquement sur des projets strictement politiques et encore moins institutionnels du type souveraineté européenne ou peut-être démocratie européenne. Je pense que ça ne suffit pas. Il y a une étape suivante dans laquelle on doit s'engager. Et c'est cette étape de construction d'un projet de société, vraiment d'une société juste, à laquelle devrait servir ce fédéralisme européen.
Merci Sophie Hein.
Merci à vous.